Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Chapeau à toi.
Quelle joie.
Chapeau à toi.
Quelle joie.
Bonjour.
Chapeau à toi. Quelle joie de vous rencontrer.
Aussi bien d'être plus
tard que tous les autres. Sans faire de différence entre qui que ce soit. Voilà. Bon, eh bien, je crois que nous allons, puisque nous sommes déjà en ligne et que nous sommes tous connectés, nous allons donc commencer de continuer. Notre étude du Orot HaTeshuva, nous sommes dans le cinquième chapitre, au paragraphe Yud Gimel. Yud Gimel, voilà. Je rappelle que le chapitre He parle de, comment dirais-je, des souffrances intérieures, de la souffrance de la vie intérieure lorsqu'on fait Teshuva, des tensions que l'on peut ressentir, des tremblements, des ébranlements, etc. Tout ce qui est lié au processus de la teshuva. Et disons que l'enseignement général du Rav Kook par rapport à ce phénomène, c'est que d'une part, il est normal, d'autre part, qu'il est, disons, prévisible, c'est-à-dire il est tout à fait prévisible que la teshuva entraîne un certain ébranlement de la personne, mais également, et ça c'est une chose très importante, c'est que cet ébranlement est réparateur. Il est en soi non pas quelque chose qu'il faut fuir, c'est quelque chose qui s'adoucit, dont l'amertume est adoucie par le fait de savoir que ça fait partie de la réparation de la personne, l'élimination des péchés, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ce que nous dit le Rav Kook, restons calmes. Voilà. Eh bien, passons au paragraphe Yud Gimel. Kol het matil charada miyuchedet ala nefesh. Toute faute introduit une certaine crainte, une certaine terreur, pourrait-on dire, dans l'être. C'est-à-dire, le fait d'avoir péché ébranle ma personne. Que ce soit le fait même d'avoir péché que le contenu même du péché. Shena mistaleket qui m'a aidé à teshuva, qui ne part qu'avec la teshuva, où le fiom cache la teshuva, et plus la teshuva est profonde, acharada atzma mitaperet le bitachon veometz levav, la crainte se transforme en confiance et en courage. Ve'aroshem shel acharada ba mitzadachet. La trace de la crainte qui vient des péchés, Efchar le'akiro, on peut la reconnaître. Ben besirtute apanim, que ce soit dans les traits du visage. Ben batnuot, que ce soit dans les mouvements, ce qu'on appelle le langage du corps. Ben bakol, que ce soit dans la voix. Ben banhaga, que ce soit dans le comportement. Ben birtav hayad, que ce soit dans l'écriture. Aujourd'hui, il y a toute une science de graphologie. Ben besignon alashon, que ce soit par le style de la langue. Badibour, dans la parole. Ou veyoter baktiva, et encore plus dans l'écriture. Beartzatara yonot vesiduram, dans la présentation des idées et leur mise en ordre. Waouh! Ce que nous dit le Rav Kook, c'est que nous pouvons découvrir ce qui se cache dans une personne à travers énormément de signes extérieurs qui demandent une certaine, disons, une certaine intuition, une certaine connaissance de la personne humaine. C'est ce que font souvent les psychologues, mais même sans être psychologue, on peut découvrir dans le comportement d'une personne, comportement involontaire presque d'une personne, on peut voir ce qui se cache dans sa personne. On peut voir s'il a péché ou pas. Manitou disait que l'on peut reconnaître à la manière dont quelqu'un parle si cette personne, si c'est un homme, j'entends par là, est circoncis ou pas. D'ailleurs, on voit dans la révélation de Yosef à ses frères. Lorsque Yosef se révèle, il dit « Voilà, je suis Yosef, votre frère. » Et il dit, entre autres choses, « Ine enechem aro'ot ve'ine achi binyamin kipi amdaber alechem. » Vous voyez bien par vos yeux et par les yeux de mon frère Binyamin. que ma bouche parle à vous. C'est quoi cette histoire de ma bouche parle à vous? Et qu'est-ce que vous voyez? Alors, Rachid dit quelque chose d'assez surprenant. Pour les convaincre qu'il est vraiment Yosef, il leur a montré qu'il était circoncis. Et en plus de ça, il leur a dit, vous voyez bien que je parle en hébreu, que je parle Belachon à Kodesh, par le langage de la sainteté. Bon, alors, la scène n'est pas très esthétique, vous vous rendez compte tout ce qu'il y a d'admirable dans cette rencontre entre Yosef et ses frères. Et puis, il y a un moment où Yosef dit, excusez-moi, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Et alors, il montre qu'il est circoncis. Ce n'est pas très présentable et ça ne correspond pas tout à fait à l'harmonie de la scène, au sublime de la scène. Et Manitou disait qu'en fait, ce n'est pas que, techniquement parlant, il leur a montré qu'il était circoncis, mais il leur dit, vous voyez à la manière dont je parle que je suis circoncis. C'est-à-dire, je parle le Lashon HaKodesh. C'est plus que de l'hébreu. Lashon HaKodesh, ça veut dire l'hébreu avec les kavanot, c'est-à-dire l'hébreu des prophètes. Et je ne pourrais pas parler cet hébreu des prophètes si je n'étais pas circoncis. Et on peut le reconnaître, bon, il y a beaucoup de choses, par exemple, on peut, si on a une certaine sensibilité, bon, chacun de nous, je pense, peut voir si son prochain est joyeux ou triste, ça on peut le voir. Mais on peut aller plus loin, on peut même se dire, tiens, je vois que tu as mangé un peu trop de piment fort. Ah bon, mais comment tu le vois? Ben, on le voit à la manière de ta réaction, à la manière dont ton visage est contracté. On peut même aller plus loin. Je me rappelle une fois, quand au Machon Meir, dans mon bureau, est entré un jeune homme et j'ai vu à son visage que quelque chose n'allait pas. Alors je lui ai dit, alors, elle t'a quitté? Et il me dit, mais comment tu sais? Bon, c'était une devinette, ça a marché. Alors, il était persuadé que j'avais le Ruach HaKodesh, n'est-ce pas? Mais en fait, il suffit simplement d'avoir une certaine connaissance de la vie. Alors, ça va plus loin. Ça peut aller également dans la manière dont le visage est formé. Ça peut se voir dans l'écriture, la graphologie, tout ce que nous avons dit. Il y a beaucoup de choses de ce genre qui aujourd'hui sont reconnues d'ailleurs scientifiquement parlant comme étant des signes qui expriment à l'insu de la personne ce qui se passe dans son intériorité. Eh bien, le Rav Kook nous dit ici à peu près la même chose. Le tremblement, cette terreur qu'impose le péché sur la personne se ressent également dans des signes extérieurs, dans ce qu'on appelle le langage de son corps.
Ah, excusez-moi, j'avais une question.
Oui, allez-y, mais parlez sans crainte.
Il y a certaines situations ou des moments dans la vie où on est complètement, on n'est pas vraiment dans les mitzvot à proprement parler, on n'est pas à la synagogue, on ne met pas les tefillines, on ne fait pas de tefila. Mais en revanche, c'est des moments où on se sent profondément en harmonie à notre place, en harmonie avec nous-mêmes. Oui. Où c'est un moment où on se dit, c'est ma place, je suis bien là. Oui. On sent un moment d'harmonie. Est-ce que quelque part, on est dans une forme de teshuva? Parce que depuis qu'on suit ces cours, j'ai vraiment le sentiment de plus en plus que la teshuva est un processus général, global, et pas du tout une correction dans le détail, mais quelque chose de très… Là, on le voit bien dans le comportement de la personne, la manière de parler, etc. Est-ce que ce processus général peut s'inscrire dans quelque chose qui ne soit pas purement religieux? Je ne sais pas si je suis très clair.
Si vous avez ce sentiment que la teshuva n'est pas seulement la réparation des péchés dans le sens religieux du terme, donc vous avez déjà fourni la réponse. Ça veut dire que la teshuva est un processus général de remise en place, donc ressentir une harmonie intérieure fait certainement partie de ce processus de teshuva. Je pense que la réponse en fait était déjà inclue dans votre question selon le principe « Shela Tracham Chatsi Teshuva », la question d'un sage est déjà la moitié de la réponse. Et donc, évidemment, ça, d'ailleurs, on peut dire que la teshuva est toujours par rapport à ce qui est défectueux chez nous, par rapport à notre enjeu personnel. C'est-à-dire, chacun a son enjeu. Le malade a pour enjeu d'être en bonne santé, tout simplement. Le pécheur a pour enjeu de réparer son péché. Et à chaque fois, donc, on est jugé par rapport à l'enjeu particulier de sa personne. Il y a ici une petite remarque. C'est l'étude morphopsychologie. Le corps se modifie en fonction de son vécu. C'est très vrai. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons donc continuer. Donc, dans Yud Gimel, Bemakom she'achet sotem et ta'ora, là où le péché bouche la lumière, shama pegima nikeret, c'est là que la défectuosité est évidente, ou les filles madrega tachet, ou les filles yichuso à la nocée, et selon le degré du péché et sa relation envers le sujet, kachayukar arochem, la chair yabitou les naïm beirot, ainsi sera la strasse sera reconnaissable par ceux qui ont pour ceux qui regardent avec un regard clair. Le regard clair n'est pas le regard de tout le monde, évidemment. C'est une question de sensibilité, évidemment. Yudalet.
Rav, j'ai une question.
Oui. Allez-y.
Dis-moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont toujours un petit peu perfectionnistes et qui sont dans un espèce, pas de mal-être permanent, mais qui oscillent, qui ne sont pas dans l'harmonie en tout cas, parce qu'elles sont toujours en recherche. Est-ce que ça veut dire que...
Que
leur tchouva n'est pas correct.
C'est très compliqué ce que vous dites là, parce que il y a différentes manières de ne pas être bien dans sa peau. Il y a une manière défectueuse, on pourrait dire une sorte de péché contre l'harmonie intérieure, mais il y a également ne pas être bien dans sa peau justement parce qu'on est en train de faire teshuva. Parce qu'on sent que quelque chose doit se purifier en nous, une sorte de catharsis qui doit se faire. C'est un peu à la manière dont un serpent perd sa première peau, fait sa mue pour passer à une autre peau. Alors, si c'est un phénomène, disons, de transition, ça peut être justement un phénomène bénéfique. Je ne pense pas qu'il faut absolument rejeter tout ce, en dehors de la teshuva, tout ce qui est malaise. Il y a tellement de sortes de malaise. Nous continuons donc à Yuddalet. En le sha'er et a tsar shel chesron haratzon le tova vidikdusha. On ne peut même pas évaluer la souffrance liée à l'absence de volonté de faire le bien et la sainteté. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, là, c'est lié à quelque chose de, disons, de fondamental, non seulement chez le Rav Kook, mais dans le judaïsme en général, qu'il y a dans l'homme deux éléments, la volonté et la sagesse. L'homme est un être pensant, c'est ce que nous ont enseigné les Grecs. L'homme est un animal pensant, et Pascal disait un roseau pensant. Mais les prophètes nous ont appris que l'homme était un être doué de volonté. C'est un être qui veut, qui a le désir. Or, il y a toujours une tension entre ces deux définitions. C'est le Français René Descartes qui a dit que nous sommes limités par notre entendement et illimités par notre volonté. C'est-à-dire que je peux, par ma sagesse, connaître les lois du monde, les lois de la nature, les lois de la Torah. Je peux connaître les lois. C'est en ça que consiste la sagesse. Or, tout ce qui est loi, tout ce qui est règle, est d'une certaine manière une limite. Ça me limite. Et le fait d'être limité me met... crée chez moi un certain malaise parce qu'il y a en moi également une aspiration infinie. Cette aspiration infinie, c'est la volonté. Je peux vouloir sans limite. Je peux vouloir sans même savoir ce que je veux. Il y a ce qu'on appelle le désir, le languissement métaphysique qui fait que nous sommes illimités de ce côté-là. Chez les kabbalistes, ces deux entités, ça devient deux entités, l'une qu'on appelle Chochma, la sagesse, et l'autre qu'on appelle Keter, la couronne, ou la volonté. Or, toujours le problème de savoir, est-ce que je suis un être de sagesse ou est-ce que je suis un être de volonté? L'enseignement des kabbalistes est qu'il faut tendre à l'unité des deux. ajouter à la sagesse la bénédiction, le surplus qui vient de la volonté. Parce que on peut être ce qu'on appelle en hébreu, en hébreu un peu simple, être carré, merouba. On peut être, disons, être quelqu'un d'extrêmement fixé dans des cadres de pensée dogmatiques, et ça manque de richesse. Il y a un enrichissement de la sagesse qui vient d'un surplus de la volonté. Et quand la volonté est une volonté bonne, la sagesse devient bonne. Et quand la volonté est une volonté mauvaise, la sagesse devient mauvaise. Ce qui explique qu'il peut y avoir des scientifiques qui se servent de la science pour le bien et des scientifiques qui se servent de la science pour le mal. De même des philosophes qui se servent de la philosophie pour le bien ou pour le mal. Et donc, comment faire pour orienter la sagesse de sorte que sa bénédiction soit une bénédiction de bien? Eh bien, il faut pour cela augmenter le désir du bien. Or, quand je désire le mal, alors il y a une souffrance terrible. La sagesse elle-même s'en ressent. Regardez ce que dit le Rav Kook. En lesher et atzar shel chesron haratzon letova v'dikdusha. On ne peut pas envisager ou évaluer la souffrance qui vient du manque de volonté pour le bien et la sainteté. Ve'en achochma ola et la kefi birkat haratzon shela. Or la sagesse ne peut s'élever qu'autant que qu'elle reçoit sa bénédiction de la volonté. Vers avonot, mais les péchés. Hem me akvim be'adaratzon sheloit ale. Ce sont eux, les péchés, qui empêchent la volonté de s'élever. Et donc, il y a également, si vous voulez, un feedback, un rapport immédiat avec le mal, avec la sagesse, qui vient du fait de l'absence de volonté. Vetzarich lashuv bitshuva. Et donc il faut faire teshuva, kedé levarer et aratson, afin de purifier la volonté, kedé shetit ale achorma karaoui, afin que la sagesse s'élève comme il se doit. Ça voudrait donc presque dire qu'il y a une science, qu'il y a une influence de la morale sur la science. Il y aurait une science nocive et une science positive. Bihud, particulièrement, tzarech lashuv me'averot chez benadam lachavero, il faut faire teshuva des péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain. Vous savez qu'il y a deux sortes de péchés, ce qui est entre l'homme et son prochain, entre l'homme et le Créateur. Et l'épreuve de la volonté, c'est en particulier dans la relation au prochain. Verosh lakol, et à la tête de tout ceci, de tout ce processus de teshuva, mais à gezel, il faut faire teshuva du vol. Shum akev et tilui aratzon, parce que c'est le fait de voler qui empêche l'élévation de la volonté. Remarquez, c'est très important, le Rav Kook ne parle pas ici de ce à quoi on s'attendrait, de aimer son prochain comme soi-même, de faire de la charité. Non, parce que tout cela, c'est encore un élan qui vient après la purification de la volonté. Mais il y a tout d'abord s'écarter du mal. Or, le mal fondamental qu'on a envers son prochain, si on n'est pas un assassin, c'est le vol. Il faut beaucoup se renforcer là-dedans. Ulkavot l'itchuat Hashem, espérer la délivrance de Dieu, l'iskot bishlemut l'achdol me'oshek yadenu, pour mériter de cesser pleinement l'iniquité de nos mains. Ça vient de la prière que l'on dit lors de la Ne'ila, à la fin du jour de Kippour, dans l'achèvement de la liste des péchés. C'est là que nous parlons de l'Ema Nerdal Me'oshek Yadenu. Ce jour de Kippour nous a été donné afin que nous cessions l'iniquité de nos mains, c'est-à-dire le vol. Et c'est là le moment, au moment de la Ne'ila, de faire teshuva si on a volé à quelqu'un, ne serait-ce qu'on n'a pas payé son billet dans l'autobus, ou on a chipé à l'étalage un stylo, enfin des choses de ce genre. Enfin, vous savez, parfois ça nous arrive quand on est dans un bureau, on prend un stylo pour signer, après on le met dans sa poche par erreur. Eh bien, ça, ce sont les choses qui empêchent la volonté de se manifester dans sa plénitude, et de ça, il faut faire des chouva.
Ah, vous avez une question dans le chat.
Ah, sur le chat. Moi, j'appelle un chat. Est-ce qu'il y a un passage sans volonté personnelle dans la Teshuva? Je ne sais pas ce que c'est qu'un passage sans volonté personnelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, passons donc à Tetvav. Hayeush, la détresse. Détresse, le désespoir. Il y a parfois un désespoir qui est lié à la Teshuva. Alors c'est là que le Rav Kook nous dit, le désespoir c'est très bien. Surprenant, on pourrait se dire le désespoir c'est la pire des choses. Non, non, non. Parfois il y a un moment de désespoir qui en soi est un espoir. C'est ça le chidouche du Rav. Hayeusheba betochalev, le désespoir qui vient à l'intérieur du cœur, ou beatzmo more al mardut pnimit adina, est parfois le symptôme d'une soumission intérieure délicate. Hanovat mitoch hakara eliona shel musar veshel kedusha, qui vient d'une conscience supérieure de moralité et de sainteté. Alken raoui hu sheyush beatzmo yechazek libo shel adam. Et c'est pour soi qu'il est bon que le désespoir en lui-même renforce le cœur de l'homme. Shelo yefached, qu'il n'ait pas peur. Viyashuv mikol chet bitshuva melea shleva veometz ruach. Non, tshuva melea shalva veometz ruach. Et qu'il fasse une teshuva de tout péché, d'une teshuva pleine de tranquillité et de courage. Alors, c'est-à-dire que parfois, si quelqu'un se dit « Oh, je suis très mécontent de moi-même, je me sens corrompu, je ne vaux rien », c'est parfois, ça vient d'un excès de sensibilité morale. Et le fait d'avoir cet excès de sensibilité morale est en soi un degré supérieur. C'est en ça, en soi, une madriga, comme on dit. Et donc, le fait même d'en être arrivé à être désespéré de soi-même est déjà un bon signe. Et donc, on n'est plus désespéré. D'accord ? C'est-à-dire, c'est, paradoxalement, c'est la douleur qui va calmer, c'est l'amertume qui va adoucir. C'est un symptôme de sensibilité morale. Alors évidemment, il ne faut pas sombrer là-dedans. Parfois, il y a excès de sensibilité morale. Alors il faut également prendre les choses avec proportion. Eh bien, puisque c'est comme ça, je pense que nous pouvons continuer sur Tetzain. Vous vous rendez compte, la vitesse à laquelle nous arrivons aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Bon, Keshe Ole Alibo chez la dame, la chouve Bichouva chez les mains. Lorsque l'on a le désir, olé al libo, c'est un premier mouvement du cœur, c'est pas une décision totale, c'est pas une prise de décision formelle, mais on a ce désir de faire une teshuva entière, ultaken et kol ma'asav v'rikshotav afilu b'marshava levad, et que l'on veut réparer toutes ses actions et ses sentiments, même que par la pensée, c'est-à-dire je n'ai pas encore réussi dans les faits à réparer mes erreurs, à transformer ma sentimentalité, mais j'ai déjà dans la pensée cette idée que je dois me transformer. C'est ce qu'on appelle le hirhur teshuva dont nous avons déjà parlé dans le chapitre précédent. Lo yipol libo bikirbo mashu nechra mipnei rova avonot shenasu itzlo yoter murgashim. Alors il ne faut pas être déprimé intérieurement parce qu'on est ébranlé par l'abondance de péchés qui, brusquement, sont plus ressentis qu'avant. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas fait teshuva, mes péchés ne me gênent pas. Mais quand je commence à y penser, c'est là que mes péchés me font mal. Je prends souvent la parabole de quelqu'un qui a un mauvais comportement physique. Il fume trop, il boit trop d'alcool, il ne fait pas d'exercice, rien de tout cela. Et quand on lui demande comment ça va, ben ça va bien. Un beau jour, son médecin lui dit « Écoutez, si vous voulez vivre comme il faut et longtemps, alors il faut faire un régime, il faut faire de l'exercice, arrêter de fumer, ne plus prendre de l'alcool et faire un peu de gymnastique. » Alors, il s'y met et c'est alors que tous les paquets de cigarettes qu'il a fumés jusqu'à présent commencent à lui faire mal. C'est là que dans ses poumons, il ressent de la fatigue, des douleurs, qu'il ne peut pas dormir. et qui se dit, mais pourquoi est-ce que je suis rentré là-dedans? Mais justement, c'est quand la santé commence que la maladie se fait ressentir. Donc, c'est un bon signe. Donc, dit le Rav Kook, si quelqu'un a entrepris de faire une teshuvah chez les mains, une teshuvah parfaite, il ne doit pas être inquiet du fait qu'il ressent plus lourdement qu'avant ses péchés. C'est normal, ça fait partie du processus. Donc, je reprends ici le texte, que si olé alibo chez la dame, la choubi tchouvache les mains, lorsque un homme a l'idée de faire une teshuvah entière, ou le taken, kolma asaveriyuk shotav, et de réparer toutes ses actions et ses sentiments, à fil ou marche à valéva, ne serait-ce qu'en penser, loyipol libo bikirbo, il ne doit pas être déprimé, mimash ou nechrad, mipne, rova avonot, du fait qu'il est ébranlé par l'abondance des péchés, chez naasu et tslo yoter murugashim, qui sont maintenant plus ressentis qu'avant. Kikar ou teva dava, parce que c'est dans la nature de la chose. Chez Kolzman, chez Adam, Unirdaf, Mipnezaf, Ateva, Hagas, que tant que l'homme est attiré et entraîné par le flot de la nature épaisse, Vecheshkat, Amidot, Araot, et l'obscurité des défauts à Sovevot Oto qui l'entoure, et Neno Margish Kolkar Bechatav, il ne ressent pas tellement ses péchés. Velifamim, chez No Margisham, Klom, et parfois il ne le ressent pas du tout. Vareout sadik be'enav, et donc il est juste à ses yeux. Aval, kevan shekocho amusari mitorer, mais dès que la conscience morale commence à s'éveiller, miyad migla ora neshama, alors immédiatement se révèle la lumière de la neshama. C'est comme si, dans un endroit sombre, vous allumez une ampoule. Alors brusquement, toutes les taches, toutes les saletés apparaissent. Il va l'aider à or. Et par cette lumière, nivdeket hinafsho kulo etzlo, tout son être est examiné chez lui. Veroe ou et kol ketamea. Alors il voit toutes ses tâches. Velibo doeg bekirbo becharadak dola. Et c'est alors que son cœur est très inquiet, d'une grande inquiétude. Almi utch lemuto, à cause de son manque de perfection. Veomek nefilato, et la profondeur de sa chute. C'est alors qu'on voit où est-ce qu'on en est tombé. Avadavka az yassim el libo. C'est alors qu'il faudra qu'il fasse attention. Shériyazo vadaga baima, que cette observation et que cette inquiétude qui vient avec elle, inehem asimanim ayoter tovim, ça fait partie des meilleurs symptômes. Amevasrim lo yeshua tolamim, qui lui annonce sa délivrance éternelle, betikun anefesh, dans la réparation de son être, vitrazek meod beze bashem eloav, et c'est comme ça qu'il va se renforcer beaucoup dans l'attachement à l'éternel, son Dieu. Voilà, donc tout cela, c'était le chapitre dans lequel nous avons étudié, on peut dire, les mouvements et les violences intérieures de l'homme qui fait Teshuva. À son niveau, évidemment, à tout niveau, il y a la douleur qui, elle, fait partie du processus de la guérison, et donc elle n'est pas à rejeter. Elle fait partie, au contraire, du rétablissement de la personne.
Rav Cherki, Shaila,
oui.
Est-ce que cette douleur peut revenir plusieurs fois dans notre vie, où on n'arrive pas à faire la tshuva totale, alors les choses qui sont advenues, elles nous reviennent tout le temps et on a un sentiment de douleur, effectivement.
Je vais vous dire quelque chose. On fait toujours une nouvelle tshuva à un autre niveau.
Ah.
C'est-à-dire, c'est toujours le même questionnement, mais il est sublimé, il devient plus pur. Mm-hmm. On pourrait vous dire qu'en fait, toute personne peut se définir par rapport à la question qu'elle se pose. Et on peut dire, je me pose toujours la même question, mais différemment, selon mon évolution, l'évolution de ma personne, mon intelligence, l'acquisition d'expérience. Tout cela, ça me permet de reposer la question autrement. Et donc, le fait que la teshuvah, parfois, revient, la douleur revient, ce n'est plus la même, en vérité. Elle est vécue autrement.
Autrement. Merci.
Je vous en prie, c'est un plaisir. Oui, vas-y David.
Si une personne ne souffre pas de faire teshuvah et elle a compris, et elle avance, etc., comme les balais teshuvah au début, quand ils sont bien chauds, et ça veut dire que la teshuvah n'est pas bien faite?
Non, pourquoi? Ce n'est pas obligatoire. La souffrance n'est pas un idéal. Alors, souvent, on voit d'ailleurs des balais teshuva, comme tu dis, qui sont bien chauds. Et puis, après 6 mois, 1 an, paf, ils se disent, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des enseignements des maîtres du chassidisme, essentiellement, qui disent que quand on commence le processus de la teshuva, on a une illumination gratuite. C'est comme un prêt qui est donné pour quelqu'un qui ouvre une entreprise. Alors, on lui donne une somme pour pouvoir fonder son affaire. Mais après, il doit commencer à rembourser et il doit également acquérir par des efforts journaliers. Alors, ce sont deux manières de faire teshuva. La première qui est on est éjecté brusquement et puis après, petit à petit, on apprend la teshuva au quotidien. Eh bien, nous allons passer, je pense que ce serait utile, de passer au Perek Tet, chapitre 9. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ça ne parle pas de la souffrance intérieure, ça parle au contraire de la grandeur, de la puissance de la volonté. C'est un élément essentiel qui est que l'homme est tout d'abord sa volonté. Comme on avait dit tout à l'heure, l'homme est un être pensant, mais c'est encore l'écorce extérieure de son être. Je suis d'abord un être doué de volonté. D'ailleurs, pour dire « moi », en hébreu, on dit « ani ». Ani, ça veut dire mon âne. D'accord? Âne, âne sheli, mon âne à moi. Que veut dire le mot âne? Âne veut dire direction. Par exemple, les ânes à ta olère. Vers où vas-tu? Donc, ani, ça veut dire ma direction. Ma direction, ça entend par là ma volonté. Là où ma volonté me porte. Eh bien, on pourrait dire donc que il y a dans l'intériorité de l'être des trésors énormes qui sont emmagasinés dans sa capacité de vouloir. Maintenant, il y a différentes manières de comprendre ce que c'est que la volonté. Il y a la volonté, disons, tout à fait banale. Alors, vous voulez un café ou un thé? Vous voulez un sucre ou pas de sucre? Vous voulez dormir ou vous voulez être réveillé? Tout cela, c'est de la volonté tout à fait superficielle. C'est la volonté du moment. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Alors, il y a la volonté, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel est votre but? Alors là aussi, il y a la volonté aveugle et la volonté orientée. La volonté aveugle se trouve, par exemple, chez des philosophes comme Schopenhauer, qui considèrent que le monde est une volonté et une représentation, le monde comme volonté et représentation, mais la volonté n'a pas de but, un peu à la manière d'une taupe, qui avance sous la terre sans savoir vers où elle va. Tandis qu'il y a la volonté qui vient de la neshama, qui est orientée vers un but, et ce but n'est pas toujours exprimé, il est parfois ressenti, mais il n'est pas toujours exprimé. Et quand on fait teshuva, ça c'est la grande théorie du Rav Kook, c'est la volonté intérieure qui se manifeste. C'est là qu'on découvre qui on est véritablement. Donc, ça explique le titre que vous avez devant vous. Erech haratzon hamidgale al idei teshuva. La valeur de la volonté qui se révèle par le biais de la teshuva. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de volonté. Souvent, d'ailleurs, les gens se disent « je veux telle chose ». En vérité, ils veulent autre chose. Mais ils ne savent pas toujours le dire. C'est ce qu'on appelle le subconscient ou dans l'inconscient. Il y a ce que je veux et ce que je veux véritablement. Et c'est pas toujours parfois, c'est exactement le contraire. C'est comme par exemple, ça c'est quelque chose qui concerne les psychologues qui sont parmi nous, si quelqu'un se présente plusieurs fois à son examen de permis de conduire et que ça fait déjà 30 fois que ça ne marche pas, c'est son 30e examen. Alors ça veut dire, alors si on demande à la personne qu'est-ce que tu voudrais, eh bien, la personne dit ben, je voudrais passer mon permis. Mais ce n'est pas la vérité, en vérité elle veut échouer à son permis. Alors évidemment, ça révolte la conscience. Comment tu me dis à moi qui veux absolument passer mon permis que je veux échouer? Alors c'est des choses à analyser. Je ne rentre pas maintenant dans la preuve de ce que j'avance parce que ça nous mènerait trop loin. Mais enfin, il y a cette idée-là. Il y a une volonté qui se révèle à travers la teshuva. Et cette volonté que nous avons dans l'intériorité de notre être est liée métaphysiquement à la volonté du créateur lui-même. C'est-à-dire, le monde est le fruit d'une volonté. L'acte créateur est un acte voulu. Ce n'est pas un acte automatique, ce n'est pas mécanique. C'est quelque chose qui est voulu par le créateur. Et cette volonté du créateur, qui est une volonté libre, a également un aboutissement. Elle a un lieu de contact qui est avec la création, qui est la volonté de l'homme. Et cette volonté de l'homme se manifeste dans sa plénitude, dans sa perfection, au moment de la Teshuvah. Voilà, ça c'est la théorie. Maintenant, on va voir dans le détail du texte du Rav Kook ce que ça veut dire. Là, vous avez un texte un peu long. J'espère que nous allons réussir à le voir en entier. Keviut ha-marshava shel ha-teshuvah. Le fait d'être fixe dans la pensée de la teshuvah, c'est-à-dire la permanence. Vous savez, parfois, des gens font teshuvah occasionnellement. N'y a celui qui est en permanence lié à l'idée de la teshuvah. Im yasedet et ofio shel adam al yesod ha-atzilut. C'est elle qui fonde le caractère de l'homme sur le fondement de l'immanence. L'immanence du créateur. C'est-à-dire, si on se rappelle les mondes dont parlent les kabbalistes, alors de bas en haut, vous avez le monde qu'on appelle Asiya, c'est-à-dire la fabrication, Yetzira, la formation, Beria, la création, et au-dessus de tout ça, vous avez le monde qu'on appelle Atzilut. Et quand on fait Teshuvah en permanence, alors on prend l'habitude de se lier à ce qu'il y a de noble en nous. Atzil veut dire également noble. Ce qui est en nous est au-dessus des considérations de bassesse et d'intérêt. Ve'u sofeg az tamid el toro ruachadin. Il s'imprègne en permanence d'un esprit délicat. Ou ma'amidato hi basé à la bassis aruchani bachaim vamitziut. Et c'est ça qui l'établit sur une base spirituelle dans la vie et dans l'existence. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont intéressés par accroître leur bien et d'autres qui sont intéressés à accroître le bien. A Teshuvah, Shuriya Balev Tamid, la Teshuvah qui est déposée en permanence dans le cœur, mais Vadet la Adam et Tarech Agadol Shel Achaim Orochaniim, rend évidente pour l'homme la grande valeur de la vie spirituelle. Vayesod agadol, c'est le contraire du matérialisme, hein, vous avez compris. Vayesod agadol, et la grande idée, sheharatzon atov vaakol, que la bonne volonté, c'est tout. Vechol hakishronot shebaolam enam ela milwav, et que toutes les capacités que nous avons ne sont que son remplissage, son expression. Naasa tochen mudba banefesh, devient quelque chose d'imprimé dans l'être, à l'idée ora teshuva kavuabo, par la lumière de la teshuva qui est fixe en lui. C'est ce qui entraîne un grand flux permanent d'esprit saint, veratzon nisga vigdusha, une volonté sublime de sainteté, les malam amida kvua chez Bene Adam Rigilim, beaucoup plus que ce qui est courant chez les hommes du commun. Olech umidgaberbo, cela va en augmentant chez lui. Et c'est alors qu'il arrive à comprendre que le bien véritable de la réussite totale ne dépend que de l'homme lui-même, et d'aucune autre condition extérieure, ce n'est que la bonne volonté. C'est-à-dire le fait d'être faire teshuvah en permanence transforme ma vision du monde. Ça fait que je me rends compte que le spirituel est plus important que le matériel, je me rends compte que le bien est plus important que les besoins, et je me remplis d'un souffle de sainteté qui me met au-dessus de la majorité des hommes. Et en se rendant compte, donc, que c'est la volonté pour le bien, qui est l'essentiel de ce qu'est l'homme véritablement. Cette réussite, c'est le bonheur qui est beaucoup plus grand que tous les trésors. Et ce n'est que ça qui rend, qui donne le bonheur au monde entier et à toute la réalité, qui a ratson atov ashore baneshama, c'est-à-dire parce que la volonté bonne qui est présente en permanence dans la neshama, mais aperhu et kol ha'chaim v'amitziut letova, transforme toute la vie et l'existence en bien, ou mitoch ha'ayin atova, et grâce à la bienveillance, shumabit aliada be'amitat amitziut, avec laquelle il observe la vérité de la réalité, poel ou alamitziut ve'al orchot asibur shebachaim sheyatzu miklal gilkulam, c'est ainsi qu'il peut agir sur la réalité et tous les cheminements compliqués de la vie qui viennent de ces défections, vakol poreach vechai beosher, et tout fleurit et vit dans le bonheur, mitoch haosher vasova nishmati shebaratzon atov, grâce à la richesse et la satiété de la neshama qui est présente dans la bonne volonté. C'est-à-dire que ce regard de bienveillance qui permet de voir la vie comme étant heureuse, influe également sur l'ensemble des êtres, pas seulement sur lui-même, mais sur l'ensemble de ce qui est. Vetorazo, shekol shelot haolamim kliot rak baratzonatov, et cet enseignement qui est que toutes les grandes questions ne dépendent que de la bonne volonté, mit pachet et baolam se répand dans le monde, aliede mare de tiufta, grâce à ceux qui font teshuva, c'est-à-dire les spécialistes de la teshuva, c'est de l'araméen, shetochen atshuva imasat nafsham tedira, dont le contenu de teshuva est leur espérance permanente, mitorkar olech bemet aratzon benasa adin vatov, et c'est ça qui fait que la volonté devient véritablement délicate et bonne, vaolam olech umit basem, et le monde va en progressant. Voilà, nous n'avons pas fini le texte, j'avais prévenu, mais je pense que c'est une bonne introduction à ce chapitre passionnant que nous allons continuer à étudier, Bezrat Hashem, les prochaines fois. Shalom!
תודה רבה רב, שבוע טוב.